Bonjour, ici Louis pour RDWA, je suis en compagnie de Marie de l'association Inframonde qui est venue nous parler des événements qui ont lieu en 2006 dans la province mexicaine de Oaxaca. Bonjour Marie.
Bonjour Louis.
Moi je suis un Béotien, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2006 à Oaxaca, donc tu es venue pour nous en parler, je te laisse la parole.
En 2006 à Oaxaca, moi j'y étais pas, mais j'ai suivi de France les événements. On a fait quelques petites manifs en solidarité. Mais en fait, ce qui se passait là-bas, c'est que en réaction à la privatisation de l'éducation et des mauvaises conditions dans lesquelles vivaient les populations rurales, les enseignants se sont mis en grève et ils ont occupé le centre-ville de Oaxaca, le Zocalo. Ils se sont installés et ils ont installé une radio, Radio Plankton. Puis, au bout d'un mois d'occupation, donc ils ont été délogés par une des nombreuses polices qui existent au Mexique. En fait, leur évacuation a donné lieu à une solidarité de la part de la population. En fait, donc la population civile les a rejoints et de là, ils ont commencé à installer des barricades et en fait à se servir des médias un peu citoyens, c'est-à-dire ils ont réinstallé la radio ailleurs et les étudiants ont réquisitionné la radio de l'université pour faire écho au mouvement qui continuait et qui s'est amplifié à partir de là. Puis ce mouvement en fait s'est étiré, la grève a fini par durer quand même 6 mois. Ça s'est terminé d'une manière très violente. Mais avant de se terminer, donc la ville a vécu vraiment en fait dans une espèce de. Enfin, bon, les gens ont appelé ça une commune parce qu'en fait, les gens se sont réappropriés la ville et ils ont occupé le palacio municipal, c'est la mairie, avec les enseignants plus la population civile, avec une revendication commune, c'est la destitution du gouverneur. Parce qu'en fait, dans la constitution mexicaine, il existe un point qu'on n'a pas, je crois, en France, j'en ai pas entendu parler encore, c'est la disparition des pouvoirs. Quand le peuple estime qu'il est gouverné par des gens incompétents, il a théoriquement le droit de demander que les gens soient remplacés, mais en fait, ce qui se fait quasiment jamais. Ils ont décidé donc que la politique du gouverneur, qui n'allait pas du tout dans le sens
De l'intérêt des populations.
ben vraiment pas, puisque en fait, oui, il était là travailler avec les multinationales, etc. Une fois qu'ils ont réclamé, bien sûr, la destitution du gouverneur, ben les choses sont allées de mal en pis. Parallèlement, en fait, à cette histoire qui se déroule à Oaxaca, se profilaient les élections nationales, les élections pour la présidentielle. Et en fait, il y a plusieurs partis qui sont en course, hein. Un parti de droite et un parti de gauche. Et finalement, le parti de gauche est évincé. Mais bon, la population crie à la fraude, etc. Et une fois que le président Felipe Calderón a été élu malgré moult manifestations, etc., bon, la répression nationale s'abat sur Oaxaca parce qu'on ne peut pas laisser, ni dans le Mexique, ni dans le monde de toute façon, une ville prendre son destin en main et puis s'insurger comme ça, parce que bon, évidemment, si ça se passe là, ça peut se propager ailleurs et c'est pas le souhait des dirigeants, quoi qu'il en soit.
Ils avaient un programme, à part le fait de vouloir destituer le gouverneur, y avait-il des demandes précises?
Ben, il y avait beaucoup de revendications au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire la privatisation de l'éducation et la privatisation d'ailleurs de toutes les branches de l'économie et tout ça. Donc ça convenait pas aux habitants de la région, ni d'ailleurs de tout le Mexique. Parce qu'en fait, la privatisation de l'éducation, ça impliquait la fermeture des écoles en zone rurale, là où il y a quasiment que des Indiens. Puis aussi, en fait, l'État de Oaxaca, comme les États du Sud, le Chiapas et le Guerrero, c'est des États qui sont très riches en minerais, enfin tout. C'est vraiment, c'est luxuriant, c'est au niveau de la production de légumes, enfin de tout. Il y a vraiment à profusion des choses et pourtant, en fait, un grand nombre de gens vivent dans une pauvreté vraiment extrême. Et en fait, le mouvement des enseignants réclamait aussi, entre autres, des chaussures pour les élèves, des petits déjeuners, enfin, à ce que les gens y puissent manger à leur faim. Et en fait, beaucoup de gens avaient des choses à dire simplement au niveau du quotidien. Et non, il n'y avait pas que la destitution du gouverneur, mais en fait, c'est quelque chose qui était quand même souhaité par toute la population. On peut parler aussi de quelque chose qui est très important au Mexique, qui a été mis en place par l'ancien président qui s'appelait Fox. Ce président avait mis en place un plan qui concernait pas que le Mexique, mais qui descendait jusqu'à Panama, qui s'appelait le plan Puebla-Panama, qui était destiné à pouvoir un peu récupérer les terres des Indiens sans avoir à les zigouiller tous, enfin, si je peux me permettre. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y avait eu l'insurrection zapatiste en 94 et tout un mouvement de soutien international et un écho comme ça, où il y a eu des gens qui se sont quand même mobilisés dans le monde entier, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas complètement exterminer les gens comme ça. Donc en fait, parallèlement à l'occupation militaire de ces zones, ils ont mis en place une espèce de guerre économique pour pouvoir récupérer les terres des Indiens, puisque en fait, ces régions sont très riches en minerais, en pétrole. Forcément, les multinationales sont intéressées. Et bien que par le passé, les Indiens se soient mobilisés et acquis des droits théoriques lors de la signature des accords de San Andrés, le droit à l'autonomie, à vivre en communauté selon leurs coutumes, et ben en fait, ces accords ne sont pas appliqués. Et le plan Puebla-Panama, il dessine du Mexique jusqu'au Panama un quadrillage pour pouvoir en fait récupérer toutes ces zones de forêt, etc. Alors ça au moyen de réseaux ferroviaires, d'autoroutes, de barrages, de champs d'éoliennes, de monoculture, de mise en place de maquiladoras, c'est des villes-usines, c'est-à-dire en fait ils veulent que les paysans ils quittent leurs terres pour aller travailler dans des villes-usines.
Enfin, de l'aménagement du territoire, quoi.
Voilà, et donc en fait ça c'est même plus efficace et moins sale que des occupations militaires avec des viols, des assassinats qui font quand même un petit peu pas propre. Alors en fait, pendant donc la commune de Oaxaca, comme on l'appelle maintenant, on a vu sur les murs énormément de peintures et il y a eu aussi beaucoup de chansons parce que bon, même si la pression était très forte, le peuple mexicain est un peuple qui est épris de couleurs et de musique. Et en fait, il peut pas se passer un événement politique sans qu'ils pondent une chanson. Alors ici, il y a une réunion, et ben ils vont faire, tiens, un tel jour, il y a une réunion, ils vont faire un morceau. Donc en fait, l'hymne un petit peu de la commune de Oaxaca, c'est Son de las Barricadas, c'est une chanson qui raconte ce qui s'est passé là-bas en musique et qui a été chantée sur les barricades et aussi chez nous en France quand on allait manifester devant les consulats du Mexique avec peut-être un accent un peu moins chouette que quand c'est les Mexicains qui chantent.
Donc on écoute cette chanson qui s'appelle...
Voilà, Son de las Barricadas.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada?
Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardan se estaba defendiendo.
Salieron de todos lados con palos, gritos y piedras. Y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire. Con hasta que los maestros se quitaron con vinagre.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son?
Sangre de maíz rega su tierra bendita. Que ya no tendrá camita ni engaño ni represión. Que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad. Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí en el corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión.
Que de dónde son, que de dónde son.
Que son de la barricada. Y de dónde son, que de dónde son. Que son de la barricada. Y de dónde son, que de dónde son.
Acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son?
Marie, pourquoi t'es-tu intéressée aux événements qui ont eu lieu à Oaxaca ? Parce que tu as des tendances révolutionnaires ou est-ce que tu es sensible à l'injustice en général et que tu souhaiterais, dans une certaine mesure, combattre cette injustice ?
Oui, en fait, je suis pas tombée dedans tout de suite, quand j'étais petite, mais plutôt quand j'étais grande. Disons que quand j'étais sur Paris, on a beaucoup travaillé, entre guillemets, par rapport au logement, aux occupations, réquisitions de logements pour les gens qui n'avaient pas de toit. Et en fait, quand j'ai entendu en 94 ce qui se passait, l'insurrection qu'il y avait au Mexique, parce que je m'y étais déjà rendue auparavant en 91, et en fait, quand j'y étais allée la première fois, la répression était tellement forte qu'on pensait que jamais rien bougerait. Parce qu'en fait, déjà en 91, ils réclamaient 800 disparus. C'est-à-dire que les gens qui se mêlaient un petit peu trop de politique qui n'étaient pas dans l'axe, ils disparaissaient tout simplement. Donc une première fois en 91, on avait vu ça, on s'était dit mais ça bougera jamais parce que c'est la terreur quoi en fait. Et ben on s'était trompé et donc en 94, quand il y a eu le soulèvement zapatiste et que la nuit du 1er janvier 94, ils sont descendus des montagnes les zapatistes et ils ont occupé 7 villes dans le Chiapas et qu'ils ont tenu jusqu'à ce que l'armée fédérale descende. Bon, suite à ça, il s'est passé plein de choses intéressantes au niveau local, certainement, mais aussi mondial par rapport aux populations indiennes du monde entier. Parce qu'en fait, finalement, ce bras de fer avec l'autorité, ça a fait que la cause des indigènes ou des Indiens, elle a été mise un petit peu sur le devant de la scène, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et que du coup, tous les peuples indiens se sont fédérés. Et bon, il y avait déjà des congrès indigènes qui étaient organisés. Mais là, en fait, du coup, ça a fédéré tous les peuples indiens de la Terre ont commencé à se regrouper et à poser des revendications communes, voilà. Parce que moi, comme plein de gens ici, à l'école, j'ai appris les civilisations disparues, les Mayas, les Incas. Et en fait, quand je suis allée là-bas, j'ai pas tilté tout de suite, mais je me suis dit, tiens, il y a quand même beaucoup d'Indiens. Et puis c'est en revenant que je me suis dit, mais mince, les Mayas, il y en a encore plein, en fait. Parce qu'en fait, à travers tout le Mexique, par exemple, il y a énormément de tribus et de dialectes qui sont parlés, et en fait, ça n'appartient pas au passé. Évidemment, la grandeur, entre guillemets, de la civilisation maya et sa décadence, bon, c'est une chose, mais la réalité, c'est que l'Amérique latine, et même l'Amérique du Nord, tout ce continent américain est habité par des Indiens qui ont des conditions de vie complètement déplorables. Et tant que je l'avais pas vu de mes yeux, et ben bon, ça m'embêtait un peu comme ça, mais pas plus. Mais je suis allée comme Yves aux intergalactiques. C'était quand le sous-commandant Marcos, il a lancé un appel international. Il a invité tous les 100 à venir.
Tous les 100 quoi, pardon?
Les 100, bah les 100 rien.
Ah, les 100, tous les 100.
Bah, les sans papiers, ah oui. Pas les sans soucis, parce qu'en général, quand on est sans, on a des soucis, mais bah, tous les gens qui n'avaient pas de toit ou pas d'argent, ou à tous les sans. Donc en fait, on s'est retrouvés là-bas, dans les montagnes du Chiapas, et on a passé quelques jours où on a pu prendre contact avec la réalité de là-bas. Parce qu'en fait, on était dispatchés en table de discussion dans différentes communautés. Et moi, j'avais choisi autonomie parce que j'avais un peu pratiqué d'une manière ici en France. Et quand je suis arrivée là-bas et que j'ai entendu comment les Indiens définissaient l'autonomie, il y avait en fait, c'était synonyme de terre, en fait. Ils parlaient que de la terre, la tierra, et de se réapproprier leur terre. Et là où j'étais à la Garucha, et en fait, il y avait des délégations de peuples indiens du nord de l'Amérique jusqu'au sud. Chaque délégation a pris la parole, chacun son tour, et ils ont expliqué pourquoi ils étaient là. Et ben, à la fin de cette journée, je peux dire que j'étais plus vraiment la même personne, parce que le fait de le voir, de l'entendre, et d'être sollicité, puisqu'il y avait un dialogue, ça a fait que... Voilà, c'est comme si mon troisième œil, celui de la conscience, il s'était ouvert sur ça. Et celui-là, on ne peut pas le refermer. Et comme depuis tout le temps sur la Terre, il y a eu des mouvements d'émancipation, etc., cette lutte des peuples indiens pour leur autonomie, pour leur droit à habiter leur terre, à y vivre selon leurs coutumes... Moi, j'estime que c'est quelque chose de légitime. Et dans la mesure de ce que mon quotidien le permet, j'aime revenir sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, tout simplement.
D'accord. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles toi et un certain nombre de Diwa se sont mobilisés pour monter une série d'événements, pour parler de ce qui s'est passé à Oaxaca en 2006, alors.
En fait, au départ, c'était des initiatives qui étaient un peu isolées, mais en fait, on s'est retrouvés autour de trajets spectacles, peuples et cultures, qui nous ont mis en lien. Et en fait, il se trouvait qu'on était plusieurs à vouloir parler de ça, puis provoquer des débats autour de cette expérience qu'ont vécu les Mexicains, parce qu'il y a eu une totale désinformation des médias quand ça s'est passé à Oaxaca. C'est-à-dire qu'il y a eu un silence médiatique vraiment général, autant dans la presse que à la télévision, que à la radio, à part quelques médias indépendants. Ben voilà, on se doit de relayer l'information, d'autant plus que... Ici en France, on est en but au même problème de privatisation que les Mexicains qui vivent vraiment dans des conditions très difficiles, qui n'ont pas les minima sociaux, qui n'ont pas le RSA, et donc qui n'ont, enfin dans les campagnes, qui n'ont pas grand-chose à perdre, sont moins frileux que nous, et très courageux, parce qu'ils risquent leur vie pour leurs revendications. Suite à les événements d'Oaxaca, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a des gens qui sont toujours prisonniers, et c'est aussi pour faire un écho aux voix de ceux qu'on ne peut pas entendre, des prisonniers. Et puis, pendant les accords de San Andrés, qui ont été donc les négociations entre les zapatistes et le gouvernement de l'époque au Mexique, donc les Indiens ont acquis le droit à se constituer en municipiaux autonomes, c'est-à-dire ils ont obtenu le droit de créer des communautés, mais en fait ce droit n'est pas appliqué. Et dans l'état de Oaxaca, il y a un endroit qui s'appelle San Juan Coppola, où c'est le seul endroit qui se sont constitués en municipios autonomes. Et en fait, depuis avril, et c'est la date à laquelle moi j'ai décidé de faire venir les copains pour parler un petit peu de tout ça, en fait ils ont été assiégés et privés d'eau, privés d'eau courante, d'eau potable, enfin, et puis de vivres. Puis après, il y a eu des caravanes humanitaires qui ont été les rejoindre. Mais en fait, ces caravanes humanitaires, elles ont été attaquées par des paramilitaires. Donc en juin, il y a un observateur international qui est mort dans ce qu'on voit, et une Mexicaine. Et en fait, là, c'était le 27 avant-hier. Moi, quand j'ai ouvert mon courrier électronique, j'ai trouvé un courrier en espagnol. Donc je suis pas vraiment sûre d'avoir bien traduit, mais ça y est, ce municipio autonome est tombé parce qu'en fait, ben, ils ont été massacrés là il y a 2 jours. Donc voilà, c'est un peu pour faire écho à ces gens qui se battent pour défendre des idées et des droits qu'ils ont acquis par la lutte et qui en meurent encore aujourd'hui. Et puis bon, ben, quand on voit un peu le confort dans lequel on vit, je pense qu'on peut au moins prêter un œil, une oreille à ce genre d'événements.
Avant de passer à la description du programme, tu as fait une chanson sur ces événements, je crois.
Oui, justement, suite à ce qui se passait là-bas, c'est toujours pareil. Comment on réagit, comment on peut être solidaire, comment on peut mettre un peu d'énergie dans ce sens, quoi. Donc, moi, avec mes outils qui sont, par exemple, un micro, un pinceau, là, en fait, j'ai réuni un peu des amis, E-S. Donc, pour pouvoir faire un morceau sur ce qui se passait là-bas et qu'on n'entendait pas ici. Donc, je travaille de temps en temps avec Junior Pony, qui est un ancien des Beru. Et j'ai invité deux copines, donc Patty, la chanteuse de la Cumbia Chichara, qui est un groupe de cumbia de Marseille, elle est chilienne. Et une copine qui fait partie du groupe Robe Petite, avec qui je travaillais quand j'étais sur Marseille. Et on a fait ce morceau qui passe de temps en temps à la radio et puis que je chante de temps en temps en live pour parler de ce qui se passait à Oaxaca.
Très bien, c'est un morceau dub, je crois. Hein.
Ah, ça, c'est du dub.
Bon, je te propose de l'écouter.
Oui.
Hay lugares de tinieblas en la mente de los hombres. Llamaba a la tierra por su nombre y desaparecía. Huracán, corazón de cielo. Llamaba a la tierra por su nombre.
Huracán, cœur de ciel. Appela la tapa, son nom es el si apareció.
Y desaparecía.
Después los animales fueron
claros. Y les hommes dans du bois sculpté. Mais ils étaient si mauvais. Qui préféra les annihiler.
Je n'ai blanc, il fit une patte, on a 4 hommes. Puis il les endormit et pendant leur sort, créa la cafard.
La brume a tenu le clair-obscur, c'est la dernière
fête des morts.
Estompe les contours des barricades, rend les couleurs indigènes opaques. Ça m'a soumis des faces, les rudeurs lacrymogènes.
Avant de se quitter, on va peut-être passer en revue le programme précis que les gens vont pouvoir suivre. Donc je crois que ça commence à Barnave le 3 octobre.
Le 3 octobre de 14 à 20h à la salle des fêtes, il y a Manu, un photographe, qui vient nous présenter une exposition qui s'appelle « Rompons le silence » et qui réunit des sérigraphies, des affiches, des témoignages sonores et visuels de l'insurrection. Donc ça c'est donc le dimanche 3 octobre et il y aura une petite collation, un repas à prix libre pour soutenir les gens qui participent. Le lendemain, lundi, à 20h, toujours à la salle des fêtes de Barnave, nous avons la projection d'un film qui s'appelle Waraka Vive, Waraka entre rébellion et utopie de Myriam Fischer et il y aura Georges Lapierre, l'auteur du livre La commune de Waraka, qui viendra nous parler de son expérience vécue puisqu'il vit à Waraka depuis longtemps et qu'il est marié avec une Mexicaine. Le 15 octobre, à 19h, à la salle communale de Bellegarde-Andiwa, donc il y aura un diaporama sur la répression des communautés indigènes avant les événements, donc qui est proposé par Time Party. Et au final, le 21 octobre, la soirée de clôture de ce mois mexicain. Donc on aura la projection du film En Waraka no Pasanada de Millienne Temples. Et nous aurons aussi la présence de Pauline Rosencross qui viendra nous présenter son livre qui s'appelle Duro Compañeros. Et elle aussi, elle témoigne de son expérience sur place puisqu'elle est arrivée en plein milieu des événements à Waraka en 2006. Voilà, donc on espère avoir beaucoup de monde lors de ces événements. qu'on puisse partager un peu la parole et aussi l'expérience des Mexicains. Voilà, donc on vous attend vivement.
Et toi, avec ton expérience de militante, tu expliquais que tu avais lutté pour les exclus, pour les logements, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en Europe, justement, pour eux, ici, à part le fait d'être informé, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, en fait, je pense que c'est une question de conscience collective. Donc, l'histoire, elle est en train de s'écrire au jour le jour, dans tous les continents. Et je pense que, tout simplement, dans un premier temps, si... on prenait tous conscience des problèmes qui se posent pour le peuple, hein, les peuples indigènes et plus globalement pour simplement la planète et l'humanité en général, et ben, je pense que chaque personne agirait d'une manière responsable. Et déjà, ce qui serait souhaitable, c'est que ben, on voyage plus. On prenne plus de temps pour voyager, pour aller vers l'autre, pour découvrir les autres cultures. Et puis après, c'est un peu à chacun, selon ses envies, de s'impliquer ou pas. Mais simplement, moi je pense que... Enfin, pour moi, c'est pas une histoire de lutte, c'est juste une histoire d'amour, voilà.
Ben, bienvenue à tous les gens pour revoir ces quelques événements. Et puis à bientôt. Merci Marie.
Merci Louis.
Au revoir.
Au revoir.